Alors, quand on dit non-travail du sol, on ne fait pas de travail du sol mécanique ou avec des outils, mais par contre, on va favoriser le travail du sol biologique. C'est-à-dire que c'est nos fameux vers de terre, insectes du sol, champignons, racines, etc., qui vont travailler le sol en faisant dedans des trous, déjà notamment, c'est-à-dire les galeries, que va faire un vers de terre.
La Ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût. Chères et chères auditrices et auditeurs, mangeurs et mangeuses de légumes, amateurs de maraîchage, voici enfin le 11e épisode du podcast La Ferme. Une vie très et peut-être d'ailleurs un peu trop chargée m'a tenu éloigné de vous, mais nous voici enfin réunis à nouveau pour un nouvel épisode, enregistré l'été passé déjà à la Clé des Champs. Beaucoup en parlent et certains le font. Aujourd'hui, nous parlons de maraîchage sur sol vivant avec Fabrice Meyer. Loin d'une application dogmatique, Fabrice partage avec nous un ensemble de techniques réalistes permettant de laisser le plus possible la vie du sol s'épanouir et au final, travailler pour nous. Alors, si vous voulez laisser derrière vous le bruit du motoculteur pour écouter le doux frottement des vers de terre, c'est parti pour une heure en compagnie de Fabrice Meyer. Parfait, bah magnifique. Merci beaucoup à Fabrice Meyer de prendre un petit moment sur le podcast La Ferme. On est là aujourd'hui pour parler un peu de maraîchage sur sol vivant, puisque c'est ça que tu viens expliquer aux maraîchers, maraîchères dans la formation Microferme. Alors, qu'est-ce que c'est que le maraîchage sur sol vivant ?
Alors, le maraîchage sol vivant, c'est un ensemble de techniques qui a été mis au point par un réseau d'agriculteurs, de maraîchers qui évoluent au fur et à mesure, quoi. Et c'est donc des techniques qui vont permettre de cultiver des légumes sans travailler le sol ou vraiment en strict minimum dans certains cas et en gardant le sol toujours couvert, un peu comme c'est prôné par la permaculture, si on veut. Et disons, le premier objectif, c'est de réduire ou même de stopper l'érosion artificielle des sols, quoi, et ses conséquences, qui sont par exemple la perte de fertilité des sols, aussi les coulées de boue sur les routes, etc. Et par ce biais-là aussi, d'améliorer les conditions technico-économiques et sociales sur les entreprises, quoi, en gagnant du temps de travail, en conservant les rendements et en ayant un travail, on va dire, plus confortable et surtout qui va favoriser la biodiversité. Et c'est là le sol vivant, c'est qu'on va favoriser en fait la vie, notamment du sol et puis des parcelles en général.
Ok, alors on va rentrer un peu dans le détail de cette pratique, mais peut-être quelques mots sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui? D'où est-ce que tu viens?
Eh bien, donc moi, je suis maraîcher depuis 2010. Avant ça, j'étais pâtissier, chocolatier.
Ok, ouais. Sacré changement.
Petit changement, j'avais besoin d'extérieur, de donner plus de sens à ce que je faisais, à faire quelque chose d'utile, de même militant, on peut dire un peu, etc. Puis j'ai toujours été assez proche de la nature, donc j'avais besoin de retrouver ça, le rythme des saisons, parce qu'en pâtisserie, on est un peu à contresens, quoi. On travaille beaucoup l'hiver et moins l'été. En agriculture, c'est plutôt l'inverse, quoi. Donc il y a un peu de tout ça aussi, le besoin de retrouver une certaine autonomie, quoi, autant alimentaire que éventuellement énergétique et tout ça. Donc pour ça, je me suis dit faire une ferme, ça permettrait d'assouvir ses souhaits, quoi.
Et une question que je pose souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui avaient un premier métier avant de se mettre dans le maraîchage, est-ce que tu te souviens du déclencheur? Est-ce qu'il y a un élément où tout d'un coup tu t'es dit non, mais là il faut que j'arrête, il faut que je retourne dehors planter des légumes?
Bah, c'est une prise de conscience qui s'est faite sur quelques années, quoi. C'est un cheminement, hein, quelque part, sur le questionnement, sur le sens de sa vie déjà, quoi, mais de ce qu'on fait, l'envie de mettre ses actes et ses pensées en cohérence, quoi. Ouais, c'est pas un moment précis, ça. Voilà. À un moment, je fais partie de mon travail de pâtissier et je voulais m'installer, je voulais plus bosser dans une boîte, quoi, soit pâtisserie ou autre chose. Voilà.
Ok, et ça a pris combien de temps cette transition de la pâtisserie à la ferme. 5-6 ans. 5-6 ans.
Ouais, de l'idée que j'ai eu déjà, voilà, ça a germé à 19, 20, 21 ans doucement. Et puis ça s'est, oui, enfin, il y avait cette idée déjà d'aller vers autre chose très jeune, hein. Après, vers 25-26 ans, j'ai arrêté la pâtisserie et je me suis formé en maraîchage. Et c'est que vers 30 ans environ que je me suis installé. Donc, entre le début du changement et vraiment la concrétisation, il y a une dizaine d'années.
Ah, il y a presque 10 ans, hein, effectivement. Et est-ce que dès le démarrage, il y avait l'idée du maraîchage sur sol vivant ou c'est quelque chose qui est venu après dans l'expérience?
Alors, il y avait cette idée, il n'y avait pas encore ce nom-là, n'existait pas, maraîchage sol vivant à l'époque, hein, mais il y avait donc cette approche permaculture, de non-travail du sol, l'agriculture naturelle de Masanobu Fukuoka, quoi, que j'avais lu vers 20, 25 ans, quelque chose. Disons qu'il était un peu un livre clé pour m'amener vers ces pratiques de sol non-travaillé, on va dire, qui après ont été... que grâce au réseau maraîchage sol vivant, quoi, j'ai pu approfondir mes recherches, quoi.
Et expérience.
Expérience.
Ça paraît un peu contre-intuitif comme ça. Quand moi j'ai grandi à la campagne, c'est qui a le plus gros tracteur, qui va, voilà, il y a vraiment les labours, c'est une tradition annuelle, ça fait propre, on recommence à zéro à chaque fois. Et là, toi, tu dis non seulement ça produit moins, mais en plus ça demande plus de travail. Comment ça fonctionne? C'est quoi la différence entre les deux?
Alors, on peut faire du maraîchage sol vivant avec des gros tracteurs.
D'accord.
Mais on les utilisera beaucoup moins que quand on laboure. Hein.
Ok.
Voilà. Après, on peut faire ces techniques en micro-ferme, en petite surface. On peut se passer de mécanisation si on veut l'appliquer sur des plus grandes surfaces. On fait recours à la mécanisation, mais voilà, qui reste quand même plus légère et on va dépenser beaucoup moins d'énergie, quoi, hein, beaucoup moins de pétrole, etc. Il y a vraiment de choses à faire. Ça paraît contre-intuitif, oui, ben moi-même, hein, je veux dire, au début, j'ai dû me faire j'ai fait des essais de plantation de salade dans un sol en me disant là, je ne touche pas le sol, je vais poser mes salades, on va voir si ça pousse, parce que bon, j'ai entendu dire que ça poussait, mais comme tu dis, on est tellement formaté pour travailler le sol qu'on n'y croit pas vraiment, et puis à partir du moment où on fait un essai et puis qu'on voit que ça pousse malgré qu'on n'a pas travaillé le sol, et qu'on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement, dans cette voie-là, quoi. Après, il faut un petit peu de technique pour que, quand c'est professionnel, quoi, on a quand même des surfaces à gérer, et pour que ça reste viable, qu'il y ait de la production, des rendements, il faut arriver à gérer tout ça, et voilà, il y a un ensemble de techniques à acquérir et d'expériences.
C'est ça, parce qu'on parle quand même de production, c'est pas juste son petit potager avec trois salades de radis, on est des gens qui essayent d'en vivre.
Voilà.
Donc c'est quoi les techniques qui sont mises en place pour avoir une production qui permette de vraiment sortir du légume toutes les semaines?
Eh bien, disons, on peut voir ça comme une boîte à outils, avec pas mal de techniques différentes qu'il faut réussir à... Il faut réussir à choisir le bon outil, la bonne technique, appropriée à son terrain, à l'année selon la météo, etc., au moment de l'année, enfin aux différentes contraintes qu'on peut avoir, aux différentes ressources qu'on peut avoir aussi, ou autres moyens. Alors c'est pour ça, la bonne technique, c'est pas toujours évident, ça dépend du contexte, mais disons que le fondement, en gros, c'était de nourrir la vie du sol, le fondement, c'est nourrir la vie du sol. La vie du sol, c'est elle qui va nourrir les légumes, et pour nourrir la vie du sol, on va amener de la matière organique. Alors cette matière organique, soit elle est apportée de l'extérieur, soit elle peut être produite sur place par des plantes qu'on fait pousser sur place, ce qu'on appelle des couverts végétaux, ou encore par des arbres qu'on va élaguer, broyer les branches, des choses comme ça, on peut ramener du bois. Et le fait donc d'amener de la nourriture, on va dire au moins 15 tonnes de matière sèche à l'hectare, ça représente en gros une botte de foin pour 10 mètres carrés, on va dire, pour donner une idée. Une botte de foin de 15 kilos, quoi.
Ouais.
Ça va favoriser le développement des vers de terre et de toute la faune et flore du sol. Hein. Donc, non seulement les vers de terre qu'on connaît bien, mais toutes sortes d'insectes, de très petits insectes comme des collemboles qui vont venir dégrader ces déchets végétaux, mais aussi des champignons qui vont dégrader le bois, la paille. Et toute une chaîne comme ça de vie qui va... qui va rendre le sol nouveau fertile et qui va lui donner une fertilité qu'on peut dire naturelle. On va chercher à fonctionner un peu comme fonctionne la forêt, en fait, puisque la forêt, les plantes vont pousser et puis les arbres vont laisser des feuilles mortes, des branches mortes qui vont faire la litière, et cette litière va servir de nourriture à la faune du sol qui va à son tour nourrir à nouveau l'arbre, et ça fait un cycle fermé sans déchets, etc. Tout est recyclé dans la nature, quoi, dans le vivant. Et c'est aussi ça qui est assez extraordinaire. Enfin, moi, c'est ce qui me passionne pas mal dans la nature, c'est qu'on a, enfin pour l'homme, c'est toujours d'inventer de la technologie, et on a toujours des déchets, de la pollution, on sait pas quoi en faire, on a toujours des conséquences derrière avec des problèmes, alors que la nature, elle a inventé un magnifique système vivant, organique, qui fonctionne tout seul, et bon, nous, on veut essayer de faire mieux. Est-ce qu'on y arrivera?
Pour l'instant, on n'y arrive pas, en tout cas, ça paraît assez sûr.
Mais oui, donc c'est vraiment la nature qui est une grande source d'observation et d'inspiration pour ces techniques, en fait. Mmh.
Et c'est quoi le problème avec le fait de travailler le sol? Parce qu'on a l'impression que, je sais pas, on remet à nouveau, on remélange un petit peu, et puis qu'au contraire, ça aère, ça dynamise, oui, en fait, quelque part le sol.
Ça va dynamiser, parce que le fait de travailler le sol, on va amener de l'oxygène, donc il va y avoir de l'oxydation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la minéralisation en agronomie, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui vont, grâce à l'oxygène, minéraliser les minéraux, c'est-à-dire rendre assimilables aux plantes les minéraux tels le phosphore, la potasse, ou tous les oligo-éléments, etc. Et l'azote aussi. Et en travaillant le sol, en fait, on va accélérer ce phénomène. Hein. La minéralisation, c'est quelque chose qui se passe déjà dans un sol naturel comme la forêt. Mais le fait de travailler le sol, on amène plus d'oxygène. Donc, c'est comme sur un feu, on met plus d'oxygène, il y aura plus de feu. Et ben là, c'est pareil, il y aura plus de vie. Et ça va brûler à quelque part le sol plus vite, puisqu'il y a plus de vie. Et ça va minéraliser beaucoup d'éléments en même temps. Et du coup, on va perdre, le stock d'éléments dans le sol va diminuer beaucoup plus rapidement, en fait, quand on travaille le sol. Après, cela dit, ça va pousser très bien, puisqu'on a du stock de nourriture, quoi, et qu'on va consommer très rapidement. Donc, on aura des très beaux légumes, en tout cas, les premières années. Mais ensuite, une fois qu'on aura épuisé ce stock de nourriture, et surtout si on ne l'alimente pas en ramenant de la nourriture, telle les paillages, etc., eh bien, on va avoir des problèmes de fertilité. Et c'est là qu'on va amener des engrais, okay, qui, eux, sont plus de la matière organique. Hein. Enfin, c'est organique, mais disons, c'est vraiment que de la nourriture, que les minéraux, sans le carbone, qui va permettre de faire l'humus du sol, en fait. Et donc, les plantes ont quand même poussé avec les engrais, mais par contre, on n'entretient pas le sol. On ne reconstruit pas de réservoir à long terme pour le sol en amenant les engrais. Pour reconstruire ce réservoir du sol, il faut amener des chaînes carbonées, telles donc la paille, des feuilles mortes, du bois, pour que ces chaînes carbonées puissent fabriquer les chaînes d'humus qui sont à la base des chaînes de carbone sur lesquelles vont se fixer justement tous les autres éléments minéraux. Et ensuite, ces chaînes d'humus sont dégradées petit à petit à nouveau par la vie du sol. Mais comme on amène toujours de la nouvelle matière, il y a un turnover, et on essaye au moins de garder à niveau le réservoir pour qu'il y ait toujours de la réserve. Et si on peut, on peut essayer d'augmenter ce réservoir en amenant plus de matière organique pour soit pour ramener plus de fertilité à un sol qui en a vraiment beaucoup perdu, quand c'est des sols qui ont subi beaucoup de travail du sol intensif, etc. Ou si on est sur un sol comme une prairie qui a déjà un bon taux de matière organique, qui est déjà plutôt pas mal en forme, on va essayer de maintenir ce taux. Donc après, on peut avoir différentes stratégies d'amener différentes manières organiques en plus ou moins grande quantité selon ce qu'on veut faire, quoi.
Ok, suivant, si on veut compenser un déficit, c'est-à-dire on récupère un ancien champ d'agriculture traditionnelle et du coup là, ben, ça a été usé. Ou au contraire, c'était une prairie libre, non utilisée, et là, pour le coup, il y avait assez, quelque part, de matière organique.
Voilà, dans la prairie, il y a encore un réservoir bien rempli, donc on peut planter, ça va pousser, et voilà, ce qu'il faut, c'est l'entretenir qui ne se vide pas. Par contre, un champ très travaillé, le réservoir est déjà presque vide. Donc, avant de vouloir cultiver sans engrais, il faut ramener de la nourriture au sol, quoi.
Ok, ça prend, pour avoir un ordre de grandeur, ça prend combien de temps de vider le réservoir, puis ça prend combien de temps de le remplir?
Ça peut se faire très vite, dans les deux sens.
Ok.
C'est-à-dire, on peut vider un réservoir en quelques années. Hein. Déjà, si vous prenez une prairie, ben, en 2, 3, 4 ans de travail du sol, on voit qu'il y a déjà une chute dans des rendements si on n'a même pas d'engrais ou d'apport complémentaire. Quoi. Donc, on perd déjà rapidement la matière organique. Et pour réaugmenter tout ça, eh bien, on peut aller très vite en amenant des grosses doses de bois qu'on appelle des intrants massifs, quoi, de matière organique, qui vont remonter les taux de matière organique très vite. Alors, par exemple, si je veux remonter mon taux de matière organique de 1%, sachant que, disons, une prairie, on va être à 4-5% de matière organique. Un sol bien usé, on va être autour des 2%. Là, c'est très peu, ça a du mal à pousser, quoi, vraiment. On estime qu'à 5%, 5-6%, ça commence à être bien. Après, ça dépend des sols plutôt argileux, il en faudra plus, sableux, ça demande moins de matière organique, etc. Et donc, pour 1% de matière organique, si on amène 5 cm de bois broyé, on amène 1% de, on va augmenter le taux de matière organique de sol de 1%.
Okay.
Et ce 1% de matière organique, on peut le perdre en quelques années, selon l'intensité du travail du sol, quoi.
Sachant que sur des grandes surfaces, 5 cm, ça fait des quantités qui sont monstrueuses.
Ça fait des quantités monstrueuses. Ouais. Ouais. Ça fait 5 cm, c'est à peu près 400 mètres cubes à l'hectare de bois broyé. Ça fait des grosses quantités, donc après on a d'autres techniques pour ça, c'est pour aller très vite, hein.
Ouais.
Après, si on veut ramener doucement avec des couverts végétaux simplement, donc de la paille qu'on va faire pousser sur place, on va pas importer de l'extérieur.
Ouais.
On va faire ça en autonomie, on va augmenter, on va dire, de 0,2-0,3% par an.
Okay.
Seulement. Donc il faudra 3-4 ans pour augmenter ne serait-ce que 1%, voire même
que
plus.
1%.
Quoi.
Ouais. Donc si on imagine qu'on récupère un sol qui est vraiment fatigué,
ouais,
ça se compte plutôt en 10, 15, 20 ans pour
voilà,
si on prend le temps pour
ça,
le remettre à l'équilibre.
C'est ça.
Okay.
C'est ça. Après, ça peut. Ouais. Si on compte que sur le couvert végétal, ça peut aller aussi longtemps. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est intercaler entre les couverts végétaux des rangées d'arbres, comme de l'agroforesterie, quoi. Par exemple, tous les 20 mètres, une rangée d'arbres qu'on va tailler ras du sol pour que chaque annuel fasse des rejets qu'on va broyer sur place et ramener sur le champ. Ça permet de produire justement ce bois broyé sur place, d'avoir une ressource...
Donc ça veut dire aussi, quand on réfléchit une micro-ferme, d'avoir des endroits de production comme ça, de biomasse, enfin de haies ou de choses comme ça qui sont dédiées à ça. C'est-à-dire on fait pousser...
Voilà, ben disons, dans l'absolu, si on aimerait que ce type d'agriculture se développe à large échelle, il faut qu'on arrive à une certaine autonomie, chaque ferme, de matière organique, parce que sinon, à un moment, on va être bloqué sur les ressources. Pour l'instant, on a les plateformes de compostage, on arrive à récupérer du bois broyé, des déchets verts, etc., assez facilement selon les régions. Mais voilà, s'il en faut de grandes quantités pour tous les agriculteurs, il n'y en aura pas assez. Donc il faut réfléchir à un système d'autonomie.
C'est ça, de production aussi, parce qu'on le voit. Puis après, c'est aussi un budget, si on doit le faire venir depuis l'extérieur, suivant quoi.
On a
des partenariats avec un centre équestre ou autre, et puis on peut récupérer du fumier gratuitement, ou sinon, ça fait des sacrées charges aussi.
Oui.
Donc, mettre de la matière organique, si possible, à produire. Il y a quoi comme autre technique? Quand on dit non-travail du sol, ça veut dire qu'on ne le touche pas du tout? On peut quand même mettre un coup de grelinette de temps en temps?
Ça dépend. Disons, on n'est pas dogmatique. Hein.
Ouais.
Et puis, selon les sols, il y a des sols comme des sols sableux qui par leur texture légère, sont plus faciles à ne pas travailler parce qu'ils vont difficilement se compacter par leur nature, alors qu'un sol argileux va se compacter beaucoup plus facilement et peut être plus difficile à conduire sans travail du sol. Pour le peu que, en plus, ce soit un sol très humide, c'est argileux, humide, etc., c'est le cas chez moi un peu, et bien c'est un peu plus compliqué que des sols drainants, quoi.
Donc, si vous faire pousser des carottes, il y a quand même une ou deux fois, on est quand même un petit peu obligé d'aérer le sol quand
non,
même.
Non, on n'est pas obligé parce que, cela dit, alors quand on dit non-travail du sol, on ne fait pas de travail du sol mécanique ou avec des outils.
Okay.
Mais par contre, on va favoriser le travail du sol biologique. D'accord. C'est-à-dire que c'est nos fameux vers de terre, insectes du sol, champignons, racines, etc., qui vont travailler le sol en faisant dedans des trous, déjà notamment, c'est-à-dire les galeries, que va faire un vers de terre, ou n'importe quel animal en se déplaçant dans le sol, même des rongeurs, faire des gros trous qui vont permettre à l'air et l'eau de circuler. Et donc, il y a un travail du sol, si on veut, mais biologique, quoi.
Okay, hein, c'est un petit peu fait travailler la, en fait, travailler la nature voilà. À notre place.
C'est la vie qui va travailler à notre place.
Et typiquement, les rongeurs, on n'est pas très contents. Là, moi, j'ai récolté des carottes la semaine passée, enfin, cette semaine. Il y en a une sur deux qui est mangée par les mulots. Alors, ils aèrent sûrement le sol, mais.
C'est un peu les deux gros problèmes dans ces techniques qui reviennent souvent. C'est les rongeurs qui vont pas mal se développer parce que comme le sol n'est plus perturbé, et couverts d'un paillage, ils sont à l'abri, il y a à manger, ils sont bien. Mmh. Donc, ils ont tendance à s'installer. Et c'est pareil pour les limaces.
Ouais.
Donc, c'est vraiment les deux gros soucis de ravageurs qui peuvent s'installer dans ces techniques.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, on essaye aussi sur la petite ferme dans laquelle on est de travailler le moins possible, de pailler le maximum.
Ouais.
Et c'est vrai que les récoltes de limaces en fin de journée, c'est quand même assez fatigant.
Ouais.
Et là, on plante des rangées de choux et une semaine après, on n'en a plus un seul qui tient debout. Alors, on est content de faire dans la biodiversité et dans le sol vivant, mais c'est quand même frustrant, quoi. C'est quand même vraiment frustrant.
Donc après, ça dépend. Là, toujours, on est dans des techniques un peu innovantes et un petit peu, on va dire, on laisse la vie s'exprimer. Donc, il peut y avoir des débordements. Donc, il faut... on peut tolérer des débordements jusqu'à un certain niveau. Mais quand ça risque de mettre en péril la viabilité économique de la ferme, il faut savoir réagir. Alors, tout dépend où c'est qu'on va mettre le curseur de sécurisation, on va dire, ou de prise de risque, quoi. Et cela va aussi dépendre de ma liberté économique. Est-ce que j'ai des prêts, par exemple, à la banque, quoi, à rembourser des obligations ou pas? Auquel cas, si j'en ai pas, je suis plus libre, je peux prendre plus de risques que si j'ai des comptes à rendre, quoi. Donc, si on veut sécuriser au maximum pour les limaces, ça va être, on va mettre de l'anti-limace bio, quoi, fer à molle, phosphate de fer, quoi, autour des plants, parce que c'est sûr, si on plante 1000 choux, qu'en deux jours, il n'y en a plus. Si on a de la chance, on a encore 1000 plants de côté, on va replanter, mais voilà.
Mais alors, on le fait deux fois, puis c'est réglé, quoi, c'est ça.
Donc, à un moment, il faut assurer la chose. Ouais. Après, si on est un peu plus joueur, alors, l'antilimace, on dit déjà, c'est à double tranchant parce que le bio est censé ne pas toucher les auxiliaires, mais apparemment, s'il y a des auxiliaires qui un hérisson par exemple qui va manger des limaces qui ont déjà ingurgité de l'antilimace, va lui-même ingurgiter cet antilimace qui est un coupe-faim et il va aussi en pâtir, quoi.
Okay.
Donc, si on compte sur le développement d'un écosystème qui devrait tendre vers un certain équilibre, en tout cas théorique, entre les ravageurs et les prédateurs, l'antilimace va perturber le développement de ça. Donc, moi, j'essaie d'en mettre vraiment très, très, très peu. Enfin, vraiment, quand je vois que je risque gros, quoi.
Ouais.
Après, j'essaie plutôt de faire développer la faune auxiliaire, quoi, par le... surtout en laissant de l'herbe haute, des tas de branches, des petits micro-écosystèmes favorables au développement de ces vivants, des mares aussi, qui vont amener les grenouilles, les couleuvres et tout ça. Pour s'occuper, gérer les limaces. Après, cela dit, les limaces, il y en a beaucoup, beaucoup, et ça dépend, ça suffit pas toujours. Ensuite, pour ma part, j'essaie un peu des méthodes homéopathiques, pour lesquelles, des fois, il me semble avoir de bons résultats, même très bons résultats, et puis des fois, des très mauvais résultats. Je ne peux pas dire si ça marche ou pas, ou si c'est moi qui fais certaines choses pas tout à fait comme il faudrait, parce que c'est assez abstrait comme méthode, et on connaît peut-être pas tout, quoi. Après, il y a d'autres méthodes comme du ramassage, du piégeage, les canards coureurs indiens, qui vont marcher plus ou moins selon les contextes, selon les canards. Quand on a des canards, il y en a qui sont très contents de leurs canards, il y en a qui ont des canards qui ne mangent pas de limaces.
C'est ça.
Enfin, bref, il y a pas mal de possibilités. Il y a des années, il y a plus de pression, il y a des années, il y en a moins. Moi, cette année, il y a très peu de problèmes de limaces, je trouve, quand même, chez moi, par rapport à d'autres. Alors, c'est une année plutôt sèche, faut dire, quoi. Mais il y a des fois, j'ai des moments très secs où j'ai quand même de fortes attaques de limaces. Donc, voilà. Et puis les limaces sont là, malgré tout. Hein. Moi, je vois quand je plante, enfin, les limaces, il y en a. Et puis, il y a des moments où elles vont en manger les cultures et des fois, elles ne les mangent pas. Alors là aussi, il y a une question à chercher. Pourquoi voilà. Parfois, on plante au milieu des limaces, elles ne touchent pas. Et parfois, c'est dévoré. Ça reste assez mystérieux.
Est-ce qu'il y a des plantes qu'on peut mettre qui vont attirer les limaces, puis c'est celles-là qu'elles vont manger plutôt que d'autres, ou au contraire, des plantes qui font fuir les limaces? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre sur le terrain pour essayer d'équilibrer ça aussi?
Oui, alors, il y a l'ail, on peut faire des purins d'ail, des choses comme ça pour éloigner les limaces. C'est vrai que l'ail même est une culture qui n'est pas attaquée par les limaces. Mmh. Hein, et elles aiment pas cette odeur de l'ail. On peut aussi travailler, par exemple, si on plante des choux, mais bon, il faut toujours l'anticiper. On peut semer, avant de planter les choux, par exemple, des salades à la volée, quoi, des graines de salade qui vont faire des jeunes laitues. Et les limaces vont être occupées à manger ces jeunes plants, au lieu de manger les choux qu'on a plantés, quoi. Après, bon, des fois, moi, j'ai déjà essayé de mettre en œuvre, mais bon, des fois, on sème, ça lève, et puis les limaces viennent les manger alors que c'est tout petit, donc elles ont vite fait le tour, et puis après, elles s'attaquent aux choux quand même, quoi. Enfin,
on a perdu et les salades et les choux.
Ouais.
Du coup, on n'a pas gagné. Ouais.
C'est pas toujours évident. Mais il faut faire des essais, il faut travailler. Des fois, on a des essais qui marchent, et puis des fois, ça
marche moins bien.
Ça marche moins bien.
Et du coup, ça veut dire aussi, dans ce type de maraîchage, peut-être ce qui change aussi, c'est la gestion du risque. En se disant, on est d'accord de prendre un certain risque, on est d'accord de perdre X% d'une culture. Et ça doit se budgéter aussi et se préparer aussi, si j'entends.
Oui, ben moi, personnellement, si j'ai 10% de perte sur une culture, pour moi, c'est totalement tolérable, c'est normal, on va dire. Quoi. La nature a pris un peu sa part, mais il me reste 90%, ça me va. Jusqu'à 20%, on va dire, c'est tolérable. Une fois que ça dépasse les 20%, quoi, quand on a 20, 25, 30%, ça commence à faire quand même un petit paquet de salade hein, qui manque après.
C'est ça.
Donc là, il faut vraiment penser à réagir. Quoi.
Ouais.
Après, ce que je fais aussi, c'est que je prévois beaucoup de plans de remplacement. Donc, quand j'ai des attaques, je remplace les plants. Après, ça, c'est aussi du temps de travail et c'est pas garanti qu'elle ne sait pas manger une seconde fois.
Ouais.
Mais il faut le prévoir. Et comme je fais mes plants, je suis indépendant à ce côté-là, je ne les paye pas. Enfin, je paye un peu la semence, le travail, mais c'est pas comme si on achète des plants tout fait.
Ouais.
Et voilà, c'est une stratégie qui peut être aussi pas mal.
Ouais, donc ça veut dire, si on fait ces plans, de prévoir aussi cette marge-là, effectivement, qui est moins chère quand on remplace des petits plants qu'on a quelques semaines plutôt que les choux en fin de saison des plants qu'on a achetés qui sont très chers.
Oui.
Et puis sur tout ce qui est rongeur, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Parce qu'effectivement, c'est les deux grands ravageurs
les rongeurs vivant. Et bien après, il y a le tourteau de ricin.
Ok.
Mais du ricin, c'est un... Il faut en mettre juste 50 kilos hectares, quelque chose comme ça. Ça permet d'éloigner les... C'est un répulsif, quoi. Donc, on faut en mettre dans les galeries. Voilà. Après, il y a aussi le développement de la biodiversité. Ben, par exemple, si vous avez des fouines, des martres, elles vont manger les rats, les souris, quoi. Après, les martres et les fouines aiment bien les tomates aussi. Donc,
c'est ça.
Voilà.
C'est de voir qu'est-ce qu'on ramène.
Ouais.
On avait aussi nous on essaye d'encourager l'arrivée de rapaces.
Oui.
Et il y en a quand même quelques-uns qui nous ont mangé des poules aussi. Donc,
oui.
Enfin voilà. Il faut réussir à équilibrer toute l'histoire pour que.
C'est ça. Et je pense qu'on n'est jamais 100% gagnant en fait. Hein. Et je pense même des fois que cet équilibre parfait, c'est bon une vision de l'homme. Hein, mais est-ce que la nature. Je pense pas qu'elle arrive à un état comme ça parfait. On est toujours dans un, il y a un débordement et puis hop, ça remonte de l'autre côté. C'est toujours une quête d'équilibre. Enfin, on n'arrive jamais à l'équilibre, quoi.
L'équilibre parfait. Ouais. Et c'est aussi peut-être diversifier. Ça veut dire aussi diversifier ses cultures, peut-être comme impératif.
Oui.
En disant si on fait que un légume ou deux ou quatre,
oui.
Et ben du coup, s'il se fait ruiner, on est vraiment mal pris. Alors que si Si on en a 60 différents, ben voilà, on peut peut-être même en avoir deux cultures où on n'a que 40% de rendement, mais c'est compensé par le reste.
Différentes espèces, donc des carottes, des radis, des oignons, etc. Mais aussi différentes variétés, parce que des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a plutôt une variété qui est attaquée et pas l'autre. Une variété de, je sais pas, de salade rouge qui ne sera pas attaquée, une variété de salade verte qui elle, est attaquée, par exemple. Et aussi plusieurs tournées. Hein, de légumes, bon, les salades, on en fait de toute façon plusieurs, sinon pour échelonner les récoltes, mais même les carottes et autres, quoi, ben, je fais une tournée en mars, une tournée début avril ou mi-avril, une tournée fin avril, début mai, une tournée fin mai, et comme ça, bon, ben, si j'ai une tournée dans le lot qui foire, pareil, je vais pas tous les œufs dans le même panier, et j'aurai des carottes quand même plus tard. Ou...
Ah, donc varier les espèces, les variétés, et puis le temps comme, comme solution aussi.
Ouais.
Un des reproches qu'on fait des fois au maraîchage sur sol vivant aussi, c'est que ça demande plus de travail ou que c'est, voilà, que quand on a un sol avec de la paille dessus, ben, tout d'un coup, écarter la paille, préparer justement son lit de carottes, qui est souvent un peu emblématique comme ça dans le maraîchage, c'est plus compliqué, ça marche pas. C'est quoi vos techniques, vos,
oui, donc, la mise en place des cultures, notamment les plantations, peut être assez longue dans les paillages, effectivement. On peut remédier après par des outils un peu pour perforer le foin ou le sol, comme des cannes à planter, des choses comme ça, mais c'est pas toujours évident. Et selon ce qu'il y a à planter, des plants serrés comme de la mâche, des choses comme ça, qui ont des fortes densités, c'est pas toujours évident à mettre en œuvre, parce que quand on va faire un trou à quelque part, ça va boucher le trou d'à côté et tout ça. Donc faut mettre pas trop épais selon les cultures. Cela dit, la mise en place est plus longue, on va dire, qu'en culture traditionnelle, mais on va gagner ensuite en temps de désherbage en saison estivale.
Okay.
Hein, même sur toute l'année, mais en général, on a quand même peu d'enherbement. En tout cas, tant qu'on est confronté à des annuels, on arrive à très bien gérer les annuels avec les paillages, les couvertures du sol, les plantes annuelles qui font leur cycle en moins d'un an. Après, des fois, au bout de 4-5 ans de pratique, on commence à avoir un développement de vivaces, parce que comme les annuelles, bon, bah, elles prennent plus la place sur le sol, c'est ce que moi je vois avec le recul et puis d'autres collègues, hein. On a le sol couvert, il n'y a plus d'annuelles, mais les vivaces, elles, elles ont de la réserve et elles peuvent traverser les couverts végétaux, ça ne les gêne pas.
Okay.
Et comme il n'y a plus d'autres plantes à côté à part les cultures, elles ont tendance à prendre la place et des fois, elles peuvent s'étaler sur une bonne partie des surfaces. Donc après là, moi c'est ce qui m'est arrivé en fait. Et puis donc maintenant, comme j'avais plus d'enherbement, je faisais quasiment voire zéro désherbage. J'avais des stagiaires, ils me disaient, j'ai pas fait un désherbage. Incroyable.
Effectivement, ça fait rêver.
Et bon, bah maintenant il y a le développement des vivaces, donc des orties surtout, la potentille, du liseron. Donc maintenant, en fait, je travaille plus sur des itinéraires bâchés avec des bâches.
Ok.
Le temps de nettoyer ma parcelle, hein, d'épuiser un peu les réserves de ces plantes. Et puis, je vais voir après comment rebondir. Il faudrait peut-être travailler après, essayer de travailler avec le couvert permanent ensuite. Donc, avoir sa culture et une couverture vivante, comme du petit trèfle, des lentilles, trèfle sclérosome, des choses comme ça, au sol, mais qui sont donc vivants, pour occuper l'espace et prendre la nourriture en rab des légumes, quoi,
okay,
pour éviter le développement d'autres adventices. Voilà, c'est une solution. Et c'est là que, bon, il y a, chez les céréaliers, il y a eu pas mal d'essais hein, dans ces méthodes sans travail du sol. On appelle ça le mouvement de l'agriculture de conservation des sols. Et c'était aussi, on remarquait qu'au bout de 3, 4, 5 ans d'essais sans travailler le sol, ben souvent on ressortait la charrue pour retourner le sol et mettre toutes ces vivaces qui venaient au bout de quelques années en dessous et avoir quelque chose de plus propre parce que ça bloquait.
Ça au bout d'un moment, ça reprend quand même l'avantage sur ce qu'on veut y mettre. Parce que juste pour être clair, ça veut dire que dans les grandes cultures aussi, le maraîchage sur sol vivant, c'est quelque chose qui existe. C'est pas que un délire de micro-fermier.
Ah non, ça se fait sur des grandes surfaces, des dizaines d'hectares, voire des centaines, milliers d'hectares. Okay. Après, ce qu'il y a, c'est que sur ces grandes surfaces, en général, donc on n'est pas sur maraîchage sol vivant, c'est vraiment pour les légumes, hein, c'est quelque chose qui est venu un peu après, mais donc il y a l'agriculture de conservation des sols, qui est un petit peu né, on va dire, des années 70-80. Le père fondateur, on va dire, c'est monsieur Lucien Segui, qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois, maintenant, quoi. Et qui a fait tout, qui a mis tout le modèle en place au Brésil, notamment, et dans les pays tropicaux. Il travaille au CIRAD, donc il y a un centre de recherche un peu comme l'INRA, mais international, hein, un centre français. Et bon, il a mis ça en place avec encore des désherbants, par contre. Donc, ils avaient la béquille désherbant quand ils avaient des problèmes d'adventice pour garder le champ propre. Et par contre, ils arrivaient à travailler seul, à faire des associations de cultures, des cultures dérobées, c'est-à-dire semer des cultures avant les récoltes pour que dès que la culture est récoltée, moissonnée, hop, l'autre est déjà en place et occupe l'espace, etc. Et quand ça partait en latte, il passait un petit coup de désherbant et hop, il continuait comme ça. Et maintenant, ce qu'on essaye de faire à maraîchage sol vivant en légumes, c'est de faire ça, mais sans les désherbants en bio, et trouver d'autres techniques. Donc nous, en petite surface, on peut utiliser les bâches.
Les bâches, ouais.
Par exemple. Mais maintenant,
pour être très clair pour les gens, ça veut dire mettre une bâche genre noire, opaque, pendant X semaines pour faire quoi?
Alors, on peut l'utiliser de différentes manières, la bâche. Soit on peut bâcher et planter dans la bâche. Ouais. Hein, on peut bâcher sur une prairie. Par exemple, vous avez une prairie, l'herbe est haute. Vous roulez avec un rouleau l'herbe. Vous mettez la bâche et vous plantez direct.
Okay.
Pas de labour, rien du tout. Et ça va pousser très bien. Sur les prairies, ça marche du feu de Dieu. Parce que la prairie, comme dit, elle est déjà riche, un gros réservoir, tout est déjà en place, tout fonctionne très bien. Après, on peut faire ça. Maintenant qu'on est débordé d'adventice, on a une partie de la parcelle qui s'est enherbée, qui s'était pas prévue, ou des problèmes de vivaces, justement, des orties. Bon, on peut bâcher les orties, et pareil, on peut planter direct dedans. Idéalement, c'est bien d'attendre quelques semaines entre le moment où on met la bâche et la plantation. Mais ouais, ça permet donc de nettoyer le terrain tout en ayant une récolte. Ouais. Ce qu'on peut aussi faire après, c'est utiliser la bâche maintenant juste pour détruire une couverture du sol, que ce soit un couvert spontané, donc des plantes qui sont venues toutes seules, ou qu'on a semé, un couvert végétal comme un engrais vert. Et quand il arrive à terme, l'engrais vert, on va le rouler pareil, on peut mettre la bâche dessus 12-15 jours, quand il fait beau en saison estivale, à partir du mois d'avril-mai, en 12-15 jours, il va être desséché, quoi. On retire la bâche et on peut planter alors dans le paillage créé par ce couvert végétal. Mais c'est un paillage qu'on n'a pas importé d'une autre parcelle, c'est un paillage qui a poussé sur place. Ce qui est bien différent, hein, parce que quand vous importez un paillage de l'extérieur, vous allez appauvrir le sol du voisin, d'où provient la paille, puisque vous la prenez, et vous allez enrichir votre sol. Ouais. Alors que si ça pousse in situ, eh ben, vous allez récupérer les éléments qui peuvent éventuellement se lessiver dans le bas du profil, et les ramener à la surface dans le paillage. Et donc, vous n'appauvrissez nulle part et vous récupérez, vous évitez les fuites chez vous, quoi.
Ok.
Et en plus, il faut moins d'énergie, etc., puisqu'il suffit de semer et de passer en rouleau pour rouler. Alors sinon, il faut aller faucher, il faut le charger, le ramener, épandre. Ah. Voilà, il faut des machines, c'est du temps, de l'énergie, etc.
Ah, donc c'est vraiment un conseil à donner aussi aux gens, c'est de réfléchir leurs engrais verts, leurs couverts végétaux pour produire aussi quelque part cette matière organique.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et ça veut dire aussi qu'il n'y a quand même jamais de modèle parfait. Il y a quand même à un moment donné recours ou au plastique ou un petit peu de désherbant ou un coup de labour, de travail du sol, parce que sinon on se fait potentiellement envahir.
C'est ça, pour l'instant, sur des grandes surfaces, sur des grandes surfaces, même un hectare, ça devient déjà difficile à gérer. Après, pour un potager familial, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, on peut peut-être gérer les choses mieux, plus idéalement, en faisant moins de concessions, quoi.
On peut tirer les orties à la main sur 100 mètres carrés, c'est faisable.
On peut rattraper
sur 2 hectares.
Ouais. Alors, sur un hectare encore, on arrive un peu à se débrouiller, et puis dès qu'il y a plus, ça devient très difficile. Et donc, il y en a qui essaient de faire ça en bio aussi. On a Michel Rush, dans le Bas-Rhin, chez nous, qui est en céréales. sur 20-30 hectares. Et donc, lui, il n'a pas les bâches et tout ça. Il est en bio, donc pas de désherbant. Et quand il a un petit peu d'herbe dans cet enchaînement de couverts et de cultures qui arrive à passer, qui le gêne, il va avoir des techniques avec du sarclage de surface. Donc, on va juste sarcler sous le collet, à 1 ou 2 centimètres de profondeur, quoi, les Adventis, et faire un travail très, très, très léger, quoi.
Ah, c'est la ferme du Joran, je sais pas si tu la connais, qui est à Orbe, où ils ont acheté une machine, apparemment, je crois, autrichienne ou quoi, qui effectivement fait quelque chose à 2, 3, 4, 5 centimètres, juste pour enlever la couche supérieure, ce qui fait que ça retourne pas tout seul, mais que ça permet de récupérer un peu l'histoire quand vraiment il y a un envahissement.
Ouais. Et puis là, bon, c'est des courants de pensée, hein. C'est un peu comme des religions, moi je dis, hein. Chacun a la sienne, et bon, pour certains, il ne faut absolument pas toucher le sol, quoi, pas gratouiller, rien du tout. Pour d'autres, si je touche pas du tout le sol, ben il faut du désherbant ou quoi. Donc moi je préfère gratouiller un peu, pas de désherbant. Enfin voilà, il y en a qui veulent absolument pas toucher leur sol, et quitte à utiliser un peu de désherbant, parce que pour eux c'est leur sol est tellement fonctionne tellement bien sans l'avoir touché que ils veulent pas le toucher. Enfin voilà, chacun, voilà. Donc tout ça, il faut être tolérant. Voilà. Et puis il faut trouver ce qui se convient à soi-même selon ses convictions et ce qu'on pense être le mieux, quoi.
C'est un peu une thématique qui revient dans les entretiens que je fais sur ce podcast, c'est que voilà, il y a des gens qui ont des certitudes, des dogmes, des choses, souvent même des gens qui sont relativement neufs dans le maraîchage ou autre, parce que moi y compris, on a lu 3 livres, on est sûr qu'on a tout compris et puis qu'il faut absolument arrêter tout ça. Puis quand on discute avec les gens qui font vraiment pousser des légumes depuis un moment, on se rend compte que oui, il y a toujours un moment où il faut pondérer quelque chose, ou être d'accord de perdre une récolte, ou être d'accord de laisser partir une planche et puis d'attendre l'hiver que ça gèle, ou effectivement de trouver d'autres systèmes et d'autres choses à faire pour récupérer l'histoire, puis quand même pouvoir produire des légumes.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a comme conseil à donner à des gens qui, ce podcast s'adresse aussi à des gens qui démarrent justement dans le maraîchage, notamment sur petite surface. C'est quoi les conseils à donner sur une installation ?
Sur une installation ? Eh bien, sur une installation, déjà, visiter un maximum de fermes avant de vous installer. Essayez de faire allez vous former, que ce soit par une voie, on va dire, scolaire, officielle, diplôme reconnu, ou par des petites formations d'appoint, essayez de bien choisir quand même les formateurs, trouver des gens qui ont de l'expérience, etc., qui font pas juste de la formation sans expérience. Donc bien faire le tour. Après, quand vous voulez vous installer, commencez petit. Enfin, tout dépend où vous en êtes, vous avez de l'expérience ou pas, si vous êtes fils d'agriculteur ou pas, si vous avez déjà fait du jardin ou pas, enfin des surfaces ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 hectare, c'est ça change complètement l'échelle par rapport à 100 m² si vous faites un petit jardin, et que ce soit sur l'irrigation, les temps de travail de plantation. Moi, je prends toujours l'exemple sur un jardin potager familial. Vous partez 3 semaines en vacances, vous revenez. Bon, il y aura l'herbe qui a poussé et tout ça. Mais en une journée de boulot, vous remettez ça à jour et puis ça va. Sur 1 hectare, vous partez 3 semaines. C'est foutu pour, voilà. Après, si on est vraiment bien dans ces techniques sol vivant, sol bien couvert, enfin, qu'on a bien prévu le coup. Bon, il y aura les récoltes à assurer quand même, parce que c'est sûr que les courgettes, au bout de 3 semaines,
elles vont pas. Ouais,
mais on arrive à des choses pas trop dégueu encore quand on revient éventuellement. Faut bien se préparer, faut pas sous-estimer le travail que ça va être, le temps de travail, ne pas se perdre dans les idéales et les rêves. Voilà, comme dit dans les livres, des fois, on a vite fait de rêver et de voir les choses un peu, de croire les choses plus faciles qu'elles le sont, que ça va aller tout seul, etc. Et quand on est sur le terrain, faut quand même s'attendre à travailler au moins 40, 50, 60 heures, voire 70, 80, 90 heures, voire même plus en plein printemps, quoi.
Ok.
Donc c'est du travail, c'est de l'occupation. Pas vraiment du travail. Moi, je me sens pas vraiment au travail, hein, quand je suis au travail.
Mais parce que t'es pas payé ou parce que t'as trop de plaisir?
Des deux. c'est bien payé pour croire au travail. Et puis, on y est bien, quoi.
Ouais. Mais ça veut dire ça aussi, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment envie de faire ça. C'est un métier de passion et pas de...
De passion, il faut garder courage, la foi, il faut persévérer. Hein. Des fois, ben, quand vous plantez, comme dit Michou, que vous faites des montées sans deux jours, ça arrive. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. Ouais. Voilà, il faut avoir le courage de replanter, de ne pas déprimer. Enfin, il faut avoir une certaine force de caractère pour passer d'année en année. Après, il faut expliquer aussi aux clients, etc. Ben ça, j'en ai pas parce que là, je me suis fait démonter tout ça. Enfin... Ouais. Et puis des fois il y a encore les voisins ou quoi qui peuvent embêter pour des prétextes ceci cela, enfin des fois on est voilà, faut avoir une certaine force de caractère et persévérer quoi. Moi je dis toujours persévérer quoi. En fait ce qui est pareil en sol vivant, bon il y en a qui ont essayé des carottes une fois, allez des fois ils vont essayer une deuxième fois et puis ça va pas et bon on baisse déjà les bras. Non, faut faire refaire jusqu'à trouver le petit truc que ça fonctionne chez soi quoi. Il y a différentes manières de faire et des fois ça tient à pas grand chose hein, que ça fonctionne pas.
Qu'est-ce qui fait que toi t'arrives à persévérer? C'est quoi la source qui est...
Parce qu'effectivement, c'est pour moi. Je suis révolté.
Ok. T'es pas le premier à dire ça. Il y a un bout de révolte là-dedans.
Ça donne beaucoup d'énergie.
Ok.
Ouais.
Révolté par quoi? C'est quoi qui te...
Bah par le monde, comment ça tourne, la société. Enfin, on fait beaucoup de choses à l'envers, je trouve. On va droit dans le mur, quoi. On a du mal à ouvrir les yeux et on continue à foncer droit dans le mur depuis des années. Et voilà. Alors, bon, maintenant, j'accepte petit à petit qu'on va se prendre le mur.
Okay.
Je suis moins révolté qu'à l'époque, mais je continue quand même à essayer d'agir. Mais là, je pense qu'on va se prendre le mur. Si on continue, clairement, on n'est pas assez à être réveillé, quoi.
Ouais, je pense qu'il n'y a effectivement pas assez d'énergie qui est mise pour essayer d'aller ailleurs que dans le mur. Mais en tout cas, merci déjà de faire tout ce que tu fais, puis d'être venu nous en parler et d'être là cet après-midi pour en parler à d'autres. Je pense que peut-être qu'on se prendra le mur peut-être un peu moins fort ou un peu moins vite.
Oui, c'est ça.
Si ce genre d'initiative qui se développe.
On va faire une brèche. Merci pour votre accueil.
Avec plaisir et à tout bientôt. Bon courage.
Merci, nous aussi.
La Ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.